Voilà, c'est le temps de prendre notre Bible en main et de l'ouvrir, si vous voulez bien, avec moi, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Le titre de ce message, « La vie, la vraie, c'est Jésus ». Jean 6, et je vais lire deux sections dans cet évangile, ce passage, versets 1 à 15 et ensuite versets 25 à 35. Vous l'avez ? Je lis. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je passe au verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je m'arrête là. Insatisfaction, frustration, sentiment d'impuissance, manque de ressources face aux situations de la vie. Est-ce que vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ? Peut-être que vous traversez un tel moment en ce moment, ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être la pauvreté, le chômage, le manque de ressources pour subvenir à ses propres besoins, ça peut être aussi l'épreuve de la dépression. Certainement, si vous avez été confronté vous-même ou si vous avez autour de vous une personne qui vit la dépression, on se sent nous aussi démunis à côté de ces personnes qui sont dans la dépression, qui traversent cette épreuve. Et on aimerait faire quelque chose et on n'arrive pas à faire grand-chose. Certes, on peut prier, on prie, mais on aimerait parfois avoir une action significative qui puisse aider les choses. Et on se sent absolument impuissant. Et ce texte où Jésus nourrit la foule de 5000 personnes touche aussi à ce thème de l'insatisfaction et de ce sentiment d'impuissance que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Combien de personnes dans cette foule exactement ? C'est vrai que le texte mentionne 5000 personnes, car en ces jours on comptait les hommes, mais pas les célibataires, ni les femmes, ni les enfants. Et certains commentateurs disent qu'il y avait certainement entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont venues là à la rencontre de Jésus. Ce texte est aussi intéressant parce que c'est le seul miracle, en dehors de la résurrection de Jésus, que l'on voit dans les quatre évangiles. Ce miracle est aussi l'arrière-plan de l'enseignement de Jésus ici, où Jésus va dire qu'il est le pain de vie. Mais ce passage touche aussi véritablement au thème des ressources. Alors j'aimerais l'aborder en vous présentant trois tableaux, en fait trois personnages ou trois groupes de personnes. Ce matin, je vous propose de voir ces personnages. D'abord, nous allons regarder ses disciples, puis nous regarderons à la foule et enfin nous regarderons à Jésus. D'accord ? Alors regardons d'abord les disciples de Jésus. On sait ici que Jésus est en train de tester ses disciples, n'est-ce pas ? On le voit au verset 6 quand Jean écrit « Il faisait cela pour l'éprouver ». Jésus leur montre un problème alors qu'ils sont là sur une montagne, près du lac de Galilée. Ils sont là assis, ils regardent une foule importante, immense, qui vient vers eux, attirée par Jésus parce que Jésus avait aussi opéré de nombreux miracles. Il avait guéri des malades. Et Jésus leur pose la question, mais comment allez-vous nourrir cette foule ? Voilà le test. Alors il est intéressant de noter maintenant comment les disciples de Jésus vont répondre à ce test et comment ils vont répondre à cette question de Jésus. Le texte biblique ne nous donne pas la réponse de chacun des 12. Mais on en a deux, certainement très significatives de la manière dont nous aurions également pu répondre à un tel test, n'est-ce pas ? Alors que répondent-ils ? Philippe, au verset 7, très pragmatique, logique, scientifique, on pourrait dire, lui, il se dit « Quelles sont les ressources qu'il faudrait pour nourrir une telle foule ?» Et il dit « 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. 200 deniers, c'est 8-9 mois de salaire. Même avec 8-9 mois de salaire, on n'y arriverait pas. » Maintenant, André, au verset 9. Lui, il regarde les ressources. Mais qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Pas grand-chose. Et c'est pas très encourageant. 5 pains d'orge et 2 poissons. En fait, le sac de pique-nique d'un pauvre garçon. L'orge, c'était la céréale du pauvre à l'époque. Alors, les disciples font quelque chose de tout à fait logique encore. Ils vont faire la chose suivante, très simple, c'est de mesurer le delta, l'écart en... Qu'est-ce qu'il nous faudrait et qu'avons-nous ? Ils font le delta et le constat est accablant. Impossible. La situation semble impossible. Faute de ressources suffisantes. Et là, on a l'impression que les disciples sont comme paralysés. Frustrés face à un tel défi que leur présente Jésus. Mais Jésus, on ne peut pas. On ne peut pas faire ce que tu nous demandes. Et la réaction d'André le montre bien. Verset 9. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Sentiment d'impuissance, manque de ressources. Regardons maintenant la foule. La foule nous donne une perspective intéressante sur ce thème des ressources. Et c'est ici la deuxième partie de ce récit. On est au lendemain du miracle, de cette multiplication des pains et des poissons. Et ce que la réaction de la foule nous dit, c'est que quand notre attention se porte uniquement sur nos propres ressources, alors on finit généralement par conclure qu'on n'en a jamais, jamais assez. Parce que les gens de cette foule avaient été nourris le jour précédent d'une façon incroyable, miraculeuse, par Jésus lui-même. On est au lendemain de ce miracle et ils en veulent plus. Un repas, c'était super, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que ces gens veulent véritablement ici, c'est, au verset 30 et 31, c'est maintenant de mettre Jésus au défi. N'est-ce pas? Ils semblent dire à Jésus, « Ok, un repas, c'était bien, mais regarde ce que Moïse a fait de son temps. Lui, il a nourri tout le peuple pendant 40 années, jour après jour. Tu as bien débuté ton ministère, Jésus, toi le prophète. Mais tu peux faire mieux. On en veut plus. Un repas, ce n'est pas suffisant. On en veut plus. » Voyez-vous, ce que la foule nous montre ici, c'est que nous sommes si naturellement insatiables quand il s'agit des choses que nous désirons. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous sentez que dans votre cœur, il y a ce même sentiment aussi? Insatisfaction? On en veut toujours plus? Quand ces choses deviennent le centre de notre intérêt, le travail, la nourriture, la santé, nos vacances, nos loisirs, notre logement, bref, tout ce que nous pouvons avoir de bon. Mais quand ça devient le centre de notre intérêt, ça peut aussi nous pousser à toujours vouloir plus. Il y a toutes sortes d'exemples qu'on pourrait citer. Certainement, je pense, il y a quelques années, je me suis offert un scooter. Voilà, très pratique pour voyager. Quand j'étais à Paris surtout, c'était très pratique pour circuler dans la ville. Vous savez, on regarde, on cherche, on se dit, bon, quel scooter il me faudrait? Et puis finalement, on en trouve un, on l'achète, et puis tout va bien. Sauf que j'ai remarqué que quelques temps après, dans mon cœur, il y a des... Tu sais, François, il y a aussi ce scooter-là. Là, celui-là, il a trois roues. Il n'est pas mieux, celui-là? Puis on se donne toutes sortes de bonnes choses. Ah, il est plus sécurisé, tu sais, on freine mieux, plus stable. Et on a tout de suite ce sentiment, alors qu'on a celui qu'on désirait, très rapidement, dans nos cœurs, on se dit, mais c'est pareil avec nos petits joujoux électroniques, n'est-ce pas? Dès qu'on l'a, et la pub nous montre, non, il te faut le iPhone 7. Oui, il est sorti. Alors ces ressources, quelles qu'elles soient, si nous mettons toute notre attention à essayer de les acquérir, elles ne vont pas satisfaire la faim de notre cœur, la faim de notre âme. Le sentiment de satisfaction, d'excitation disparaît tellement vite et d'autres désirs prennent le dessus. Les ressources, quelles qu'elles soient, ne vont jamais remplacer la faim de notre cœur, la faim de notre âme. Et je pensais à un psaume qui peut illustrer ça aussi. C'est le psaume 106 qui touche à ce thème d'une manière remarquable. Et là, dans ce psaume historique où le psalmiste raconte de nouveau l'histoire d'Israël. Et là, l'auteur rappelle l'errance de ce peuple dans le désert, dans ce qu'on appelle l'Exode. Et à bien des reprises, ce peuple ne voulait plus regarder à l'Éternel, mais il regardait à leurs propres ressources, ce qu'ils avaient. Et le peuple n'était pas satisfait. Il voulait mieux et il voulait plus. Il voulait mieux et plus de nourriture. Seigneur, un peu plus de variété, la manne c'était bien, mais t'as pas autre chose au menu? Il voulait de la viande, de la meilleure viande, plus de viande. Il voulait de l'eau, plus d'eau. Écoutez ce que dit le psalmiste, versets 13 à 15. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » C'est quoi, le dépérissement dans leur corps? C'est comme un dégoût, un écœurement. Toutes ces choses, en fait, ne nourrissaient pas leur cœur et leur âme. Dépérissement. Et c'est certainement ce que nous faisons nous parfois aussi, lorsque nous ne regardons plus à l'Éternel, lorsque nous le mettons de côté. Alors nous pouvons aussi ressentir ce même écœurement, cet dépérissement dans nos corps, cette insatisfaction dans nos vies. Comment est-ce que cela se caractérise-t-il? Je pensais certainement aux inquiétudes. Vous savez, quand vous regardez vos propres ressources, vous dites « mais j'en ai pas assez » ou « je m'inquiète pour ce que je vais avoir demain ». L'inquiétude. Ou bien ça peut être l'envie. Quand vous regardez à vos propres ressources, vous regardez aussi les ressources des autres et vous dites « ah, j'aimerais bien avoir ce que lui a ». L'envie. L'impatience, parce que vous dites « mais j'aimerais avoir ça ». Je veux l'avoir maintenant. Tout le monde me dit qu'il le faut maintenant. L'insatisfaction. J'ai envie de dire même parfois même jusqu'à la colère de ne pas avoir ce que nos cœurs peuvent désirer. Par contre, si vous cherchez à être rempli par Dieu, et c'est là où Jésus va intervenir dans nos vies à tous, n'est-ce pas? Eh bien, d'autres caractéristiques peuvent surgir là dans nos vies, remplir nos cœurs et nos âmes, la paix du cœur. Auprès de l'Éternel, cette paix est disponible. Quand on regarde à lui, on est rayonnant de joie. La satisfaction, le contentement d'être en lui et en lui seul, et la joie également. Chose que, si on faisait un sondage ce matin, nous désirons tous, n'est-ce pas? Qui ne veut pas la paix du cœur, la joie, le contentement et la paix? Et ce que ce passage nous apprend, c'est que nos ressources ne peuvent pas nous y amener. Si nous essayons d'y arriver par le chemin de nos ressources, mes amis, c'est une voie sans issue. Seul Jésus peut remplir ces besoins profonds de nos cœurs. Seul Jésus. Et c'est le troisième personnage que nous allons maintenant regarder. Jésus. Tous ici n'ont pas saisi où voulait en venir Jésus. Que ce soit les disciples ou bien la foule, ils n'ont pas compris que l'important, ce n'était pas la ressource matérielle du pain, mais que Jésus est le pain de vie. Jésus est celui dont ils avaient besoin, dont j'ai besoin, dont nous avons tous besoin, n'est-ce pas? Au verset 30 et 31, ils mettent alors Jésus au défi en lui demandant plus de pain. Et Jésus refuse de leur en donner. Et d'ailleurs, il leur dit, ce n'était pas Moïse qui leur avait donné ce pain, cette manne, c'était Dieu. Il remet les choses à leur place. C'est lui qui avait pourvu à la manne dans le désert. Et maintenant, dit Jésus, je ne vais pas vous donner plus de pain, mais ce même Dieu, venu du ciel, va vous donner le véritable pain. Et ce véritable pain, c'est lui, c'est Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Je suis celui dont tu as besoin pour véritablement vivre. Tu as besoin d'être en relation avec moi. Il y a quelques années, pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, il y avait une pub, je pense que John s'en souvient, quand il était à Paris, et il devait être tout en France. C'était le slogan d'un grand distributeur. La vie, la vraie, c'est... C'est là que je me rends compte que culturellement, je suis à côté... Tu t'en souviens, John? Il ne regardait pas les panneaux 4x3 dans Paris. La vie, la vraie, si je traduis, ça serait... C'est la Migros. Non, c'était Auchan. Non, la vie, la vraie, c'est Jésus. La vie, la vraie, c'est Jésus. Les disciples ont vu en Jésus l'envoyé de Dieu, la présence de Dieu parmi eux. Mais ils avaient toujours ce vieux réflexe commun à toutes les religions. Faire, faire et refaire pour mériter les faveurs de Dieu. Et ils lui disent au verset 28, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répond, « Faire, ça ne le fait pas avec moi. Faire, ça ne le fait pas. » L'œuvre de Dieu, verset 29, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'il est beau ce verset, n'est-ce pas? Qu'il est beau. Il y a tout. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tout est là. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu nous demande aujourd'hui la même chose, croire en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et puis ce miracle de la multiplication des pains et des poissons est intéressant. Il nous révèle la puissance de Jésus, mais il est aussi intéressant parce qu'il nous révèle aussi qui est Jésus. Vous savez, dans tous les miracles de Jésus, Jésus a fait ces miracles non pas pour assurer le spectacle, non pas pour démontrer sa puissance d'une manière ostentatoire, mais à travers les miracles de Jésus, on voit une facette de la personne de Jésus, de qui il est, dans son essence même. Alors j'aimerais que nous regardions à quelques éléments de ce miracle qui forment comme un arrière-plan sur l'enseignement de Jésus quand il dit qu'il est le pain de vie. D'abord, avez-vous remarqué où se déroule cet épisode? On est où là? Nous sommes au bord du lac de Galilée, sur une montagne, dans un lieu, nous dit le texte, et pour un golfeur, on le souligne, où il y avait beaucoup d'herbe. Moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que Jean, il a dit qu'il y avait beaucoup d'herbe? Bien souvent, même quand on imagine ces scènes bibliques, pour nous aujourd'hui, on se dit, de toute façon, c'est que le désert là-bas. Mais là, il y avait beaucoup d'herbe. Et les disciples sont assis et Jésus fait asseoir la foule qui vient à lui. Une meilleure traduction d'ailleurs de ce verbe asseoir, selon le grec, c'est être couché, allongé, se reposer. D'accord, vous avez cette foule qui arrive, Jésus dit, asseyez-vous, et il s'allonge comme nous pourrions le faire, pas en ce moment, mais quand viendra le printemps, on le fera dans l'herbe. Quand on pique-nique par exemple. C'est le sens de ce verbe, asseoir. Jésus donc à cette foule qui vient à lui, qui s'allonge, se repose là sur l'herbe verte. Vous voyez l'indice? Où veut nous mener Jésus ici? Dans sa manière de faire même ce miracle? Pensez-y une minute. Vous êtes là. Essayez d'imaginer la scène. Vous êtes en Palestine il y a 2000 ans. Pas loin du lac de Galilée en bas, sur le flanc de la montagne, au milieu d'une foule, assis, allongé, couché dans l'herbe verte. Que voyez-vous? Mais que voyez-vous? Certainement qu'au loin, vous pouvez voir un berger avec son troupeau. Mais vous êtes là, au milieu du berger et de son troupeau. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce récit de Jean 6. Et Jésus, dans la manière même qu'il utilise pour faire ce miracle, se présente comme le berger qui prend soin de son troupeau, comme le berger du psaume 23, n'est-ce pas? Et beaucoup connaissent ce merveilleux psaume. Sinon, prenez-le, lisez-le dans votre Bible. On aime le lire généralement quand on est au bout du rouleau, quand on a épuisé toutes nos ressources, quand la situation est parfois difficile, on aime trouver réconfort dans ce psaume 23, n'est-ce pas? On aime trouver réconfort auprès de ce Dieu qui nous est présenté comme le bon berger, qui prend soin de son troupeau. Et Jésus nous montre ici dans ce récit qu'il est ce bon berger, qu'il veut apporter réconfort, qu'il veut apporter encouragement à ceux qui viennent à lui. Et regardez ce qu'il fait ici, Jésus, à la lecture de ce psaume 23 que je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qui se passe dans Jean 6. Il a été ce bon berger, ils n'ont manqué de rien. Ils ont eu bien plus, ils ont été rassasiés. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ils y sont, reposés dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Là, c'était 12 paniers qui ont débordé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un berger plein de compassion, n'est-ce pas ? Jésus est ce berger. Il est concerné par chacune de ses brebis. Alors, c'est peut-être un détail dans cette histoire, dans ce récit, mais il est bien important. Car bien souvent, nous pouvons penser que nos circonstances, même si difficiles parfois, ne le sont peu au regard de ce qui peut se passer de dramatique dans le monde. Et on pense à tort, mais tu sais Seigneur, tu as tellement de choses à faire, mais mes petites circonstances, mes soucis, est-ce que tu t'en soucies véritablement ? Il y a tellement de gens qui sont dans la situation bien plus difficile que la mienne. Est-ce que tu te soucies de mes petits problèmes ? Voyez-vous, cette foule n'était pas en train de mourir de faim. Hein ? C'était pas le Darfour, le Rwanda. Non. Ils avaient manqué un repas, peut-être deux. Rien de plus. Jésus aurait pu renvoyer cette foule dans la ville pour qu'ils achètent de quoi se nourrir et il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Jésus a eu compassion. Pour ces personnes, il a pourvu à leurs besoins. Il les a nourris. Alors regardez en arrière dans Marc. Vous avez la réponse là aussi. Dans Marc 6, verset 34, le passage parallèle. Voilà ce qui a motivé Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Elle fut émue de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On retrouve ici ce thème du berger et des brebis. Il était plein de compassion parce qu'il a vu toutes ses brebis venir à lui. Elles étaient perdues. Elles n'avaient pas de berger. Et Jésus, ému de compassion, va répondre comme le bon berger. Mes amis, voyons ici un formidable encouragement pour nous aussi. Jésus se soucie de nos besoins, de tous nos besoins. Et il aimerait dans sa compassion pour nous y répondre également aujourd'hui. Autre remarque avant de conclure. Avez-vous remarqué la manière dont Jésus va répondre aux besoins de cette foule qui arrive, c'est 15 000, 20 000 personnes qui arrivent vers lui. Jésus va multiplier le maigre pique-nique d'un pauvre garçon. 5 pains d'orge et 2 poissons. On aurait pu imaginer un autre scénario, n'est-ce pas ? Si j'avais écrit le scénario, j'aurais pu penser à une chose comme celle-ci. Moi, j'aurais bien vu Jésus commander aux anges du ciel un repas qui descendrait, un repas céleste, paf, pour nourrir ces 15 000, 20 000 personnes. Ça aurait été d'art, comme disent mes garçons aujourd'hui. Ça aurait été grandiose. Imaginez la scène. Et puis, j'aurais pu imaginer Dieu. Il y avait certainement des moutons qui devaient être dans les pâturages plus loin, vous savez, un méchoui céleste. Paf, le feu du ciel qui descend, là, qui consume tout ça, la bonne viande fraîche et chaude. Et on aurait pu se réjouir d'un tel repas. Mais Jésus ne l'a pas fait ainsi. Il va choisir de multiplier le maigre pique-nique d'un jeune garçon. Pourquoi ? Qu'est-ce que Jésus veut montrer par là, à travers ce miracle ? Je vois deux choses ici. La première, c'est que Il montre qu'il est le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu magicien qui fait des choses extraordinaires, juste comme ça. Mais il est le Dieu créateur, qui est proche de sa création. Il aurait pu commander un repas céleste, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré créer devant tous, avec la matière qu'il avait là, devant lui, de disponible. Il prend ses 5 pains d'orge, il prend ses 2 poissons, et il crée suffisamment pour nourrir 15 000, 20 000 personnes. Et il y a des restes. Et ils ont été rassasiés. Et puis Jésus nous montre ici quelque chose de très important pour nous aussi, aujourd'hui, et qui peut nous encourager, que vous pouvez prendre avec vous ce matin. C'est que vos faibles ressources peuvent devenir immensément plus que vous ne pouvez l'imaginer quand elles sont dans les mains de Jésus. N'est-ce pas? Quand vous lui donnez le peu que vous avez, mes amis, c'est là que le miracle se produit. C'est là que Dieu agit dans nos vies. Et ça m'encourage. Et on n'aurait pas appris cette leçon s'il y avait eu un repas céleste qui descendait du ciel. Alors quel encouragement pour nous. Bien souvent, nous sommes comme ce pauvre garçon. Nos ressources sont limitées face aux situations que nous pouvons vivre. Parfois, nous arrivons au bout de nous-mêmes. Nous avons le sentiment d'être au fond d'une impasse, sans sortie possible. Alors, mes amis, c'est précisément là que Jésus intervient et qu'il veut intervenir dans nos vies. C'est là la plateforme où Jésus opère le miracle dans nos vies, qui nous démontre toute sa grâce et sa toute-puissance dans nos vies. Vous savez, Jésus n'est pas venu vers ceux qui se disent autosuffisants. Tu sais, Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de toi. Non. Dieu va vers ceux qui lui disent, Seigneur, je n'ai que ça. Je n'ai pas grand-chose à t'apporter. Je n'ai que 5 pains, 2 poissons. Prends-les. Utilise-les. Fais ton œuvre dans ma vie. Alors soyez certains que le Seigneur saura utiliser le peu que vous avez parce qu'il est celui qui pourvoit. Il est le pain de vie. Je termine. D'abord un mot pour vous qui n'avez pas encore fait le pas de la foi. Je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est votre histoire, si Jésus est devenu votre sauveur et Seigneur. Peut-être que vous dites... Mais ma foi, elle est bien trop petite pour que Jésus puisse l'accepter. Il m'en faut plus, il me faut une expérience, il me faut autre chose. Comment est-ce que Jésus pourrait l'accepter? Sachez que c'est faux. Dieu vous cherche. Il a pris l'initiative. Il a fait le premier pas vers vous. Il a envoyé son Fils unique, Jésus. Jésus, le pain du ciel, le pain de Dieu, celui qui donne la vie au monde. Écoutez la parole de Jésus. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voulez-vous croire en Jésus? Voulez-vous vous confier entièrement à lui? Voulez-vous aussi reconnaître humblement que vous êtes comme ce pauvre garçon qui, malgré peut-être les apparences, vous avez absolument pas grand-chose à lui apporter? Devant ce Dieu saint, que pouvons-nous apporter qui lui plaise? Rien. Rien. Il est le Créateur. Il a tout. On l'a lu dans Job tout à l'heure. Que pouvons-nous lui apporter? Rien. Venez à lui et laissez-le faire une œuvre nouvelle dans votre vie. C'est l'invitation que j'aimerais vous lancer à vous qui ne l'avez pas encore connu, vous qui n'avez pas reconnu ce que vous êtes devant ce Dieu saint, que ce péché vous sépare de ce Dieu saint, mais que Jésus est venu pour prendre sur lui notre culpabilité, qu'il a pris sur lui nos fautes, notre péché. Il a payé le prix total. Il a tout accompli pour me réconcilier avec le Père. Cadeau. Gratuit. Rien à faire. À croire. en lui et en lui seul. Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Un mot pour vous qui y croyez déjà. J'espère de tout cœur que la méditation de ce texte vous encouragera peut-être à faire un pas de plus avec Jésus, un pas de plus pour le servir. Et certains peut-être hésitent et se disent, mais Seigneur, mais moi de te servir, mais j'ai rien. Qu'est-ce que je peux t'apporter? J'ai pas des talents, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. Alors ne faites pas le même calcul que Philippe et André ici, hein. Ils n'ont pas vu que devant eux se trouvait celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Soyez comme ce pauvre garçon. Présentez-lui ce que vous êtes, votre misère même, le peu de talent que vous pouvez avoir, vos échecs. Présentez votre personne devant ce Dieu. Et il saura multiplier, il saura faire fructifier ce que vous lui confiez. Quel miracle, quel encouragement pour nous à nous engager, à le suivre dans la vie de disciple, à le servir là où il nous a placés, dans l'Église. Le miracle de l'Église locale, c'est ça. C'est ce que je découvre année après année, c'est ce que je découvre actuellement à Annecy, à l'Église, de voir tous ces gens qui se mobilisent et qui apportent ce qu'ils sont et de voir ce que le Seigneur fait, et c'est formidable. De voir les dons qui se révèlent, de voir l'engagement des uns et des autres dans l'Église locale. Mais à partir de là, pour ça, en fait, il faut que apporter ce que nous sommes devant lui et le laisser agir dans nos vies. S'attendre à ce qu'il se manifeste dans sa grâce dans chacune de nos vies. Voilà ce que j'aimerais aussi vous apporter ici à Genève, que vous puissiez vous souvenir de ça et apporter devant ce Dieu ce que vous êtes et le laisser agir et voir comment il va multiplier et se révéler parmi vous et en dehors même de votre Église. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Merci parce qu'on peut prendre le temps ce matin pour la méditer. Je crois, Seigneur, que tu as des choses à nous dire à chacun ce matin, à travers ce texte. Utilise-le, Seigneur, fais fructifier cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit pour toi. Encourage-nous, Seigneur, dans nos vies. Encourage-nous et parle-nous. Si certains ici ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur, qu'ils puissent abandonner toute leur vie à toi. Se présenter à toi tel qu'ils sont. Tu connais tout, tu connais nos cœurs, on ne peut rien te cacher, Seigneur. Nous reconnaissons notre misère, notre besoin de toi pour être remplis. Merci parce que tu es le pain de vie. Nous avons envie de goûter combien tu es bon. Je prie pour ceux et celles ici qui n'ont pas encore fait ce pas, que tu te révèles à travers ta parole, que tu parles au cœur par ton esprit, que tu convainques les uns et les autres qu'ils ont besoin de toi. Je te prie pour bien-aimés ici, que Seigneur tu les encourages dans leur vie chrétienne. Merci parce que c'est en Jésus seul que nous pouvons nous confier. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Il est celui qui remplit nos cœurs et nos âmes. Merci Seigneur parce que c'est vrai, nous n'avons pas grand-chose à t'apporter. Toi, tu es le Créateur, tu as tout. Nous pouvons t'apporter seulement un cœur reconnaissant de ce que Jésus a fait, qu'il a tout accompli pour notre salut. Et en retour, Seigneur, parce que tu nous as aimés, nous voulons t'aimer et aimer nos prochains, te servir pour la gloire de ton nom. Utilise-nous, fructifie ce que tu nous as donné par ton Esprit. Au nom de Jésus. Amen.